Il est 7h03. Tommy Chouinard, bonjour.
Bonjour, Louis.
J'ai envie d'inverser tes sujets. On va commencer avec le premier ministre Trudeau parce que hier, c'était quand même le témoignage le plus attendu depuis un bon moment. Et là, Justin Trudeau, dans le fond, il reconnaît aucun tort.
D'abord, il reconnaît aucun tort. Il dit qu'il n'y a pas eu de traitement préférentiel, traitement de faveur à l'égard de We Charity. Il dit qu'il n'y a pas eu de... Il s'est pas retrouvé lui-même en situation de conflit d'intérêts. Le problème dans ces histoires-là, c'est que l'apparence de conflit d'intérêts, c'est bien souvent aussi important, et c'est ça qu'on enseigne partout, là, que le conflit d'intérêts réel. En fait, hier, on a su que M. Trudeau ne savait pas beaucoup de choses dans cette affaire-là. En fait, et là, ce qui est intéressant dans son témoignage, c'est qu'il a dit que le 8 mai, lorsqu'on lui a dit que, lorsque la fonction publique, dit-il, a dit que c'était sa recommandation que We Charity obtienne donc ce fameux contrat sans appel d'offres pour gérer un programme là, de bourse aux étudiants qui font du bénévolat, il a raconté qu'il y a une petite voix, en quelque sorte, qui lui a dit, je pense qu'en raison des liens que j'ai moi-même avec et ma famille aussi, mes proches, avec We Charity, ça risque de soulever toutes sortes de questions, ça risque d'entraîner une controverse. Alors, il demande des vérifications supplémentaires. Par contre, on ne connaît pas exactement, il n'a pas précisé quelle était la nature exacte de ces vérifications.
Oui.
Puis, deuxième chose, je te dirais, il est permis de douter de la qualité de ces vérifications supplémentaires qui ont été faites parce qu'en bout de course, il dit qu'il ne savait même pas que We Charity avait des problèmes financiers et des problèmes de gouvernance. Il me semble qu'il aurait dû y avoir un rapport à ce sujet-là. En tout cas, autre élément aussi, c'est que même si, je vais reprendre l'image de la petite voix, lui a dit qu'il risquait d'avoir une controverse, il ne s'est tout de même pas récusé des discussions au cabinet pour prendre la décision.
Exact.
Bon, donc là, c'est étrange qu'il y ait un doute, mais il ne prend pas toutes les précautions nécessaires à ce sujet-là.
Il y a plus qu'un doute. Il dit lui-même qu'il savait que ça allait causer un problème de perception. Et malgré ça, il reste au Conseil des ministres quand vient le temps de prendre la décision.
Oui. Puis, autre chose, la décision. Il dit que la fonction, il a été placé devant, dit-il, un choix binaire, ces mots, par la fonction publique. C'est oui. Ou c'est non, il n'y en aura pas de programme. Donc, soit on choisit We Charity, soit il n'y a pas de programme. C'est un peu étonnant que la fonction publique place le premier ministre du Canada devant un tel choix binaire.
Ouais.
Bon, il me semble qu'il aurait dû y avoir un peu d'autres options qui émergent. Mais aussi, du témoignage de Justin Trudeau, j'ai trouvé ça assez embarrassant pour Bill Morneau. Parce que Justin Trudeau dit... Sa version des faits, c'est le 8 mai qu'il apprend que c'est We Charity qui est recommandé. Or, avant, des membres de son cabinet et Bill Morneau, ministre des Finances lui-même...
Il y avait 8 ministres à cette rencontre-là.
Oui. Donc, tous ces gens-là sont déjà en train de travailler pour que We Charity gère le programme avant qu'il y ait une décision formelle du Conseil des ministres. Donc, les précautions que M. Trudeau dit avoir prises donc pour se prémunir d'une controverse, ça n'a pas très bien fonctionné, on dirait que ces scrupules-là, Bill Morneau ne les a pas eus avant.
Exact.
Donc, et autre chose, quand il te demande des vérifications supplémentaires, comment se fait-il que Bill Morneau n'est pas présenté dans le bureau de son premier ministre en lui disant « je vais passer au confessionnal puis je vais vous annoncer que j'ai fait des voyages familiaux, il y a eu des voyages familiaux, deux voyages familiaux qui ont été payés. » Tout ça est arrivé bien tardivement. Alors, c'est quand même, c'est une situation... plutôt étrange. Donc, de ce témoignage, pas beaucoup de grandes révélations.
Mais des contradictions quand même, moi, je trouve.
Mais oui, puis il reste, des contradictions importantes, puis des éléments qu'on s'explique mal dans cette séquence-là.
Bon, parlons maintenant du gouvernement Legault. On se souvient, Tommy, on était à la même conférence de presse quand François Legault a dit que il pourrait déclencher une enquête publique sur la gestion et l'hécatombe des CHSLD. Mais là, il n'y a peut-être pas tout à fait le même appétit. Il a perdu l'appétit pour ça?
Non. Là, clairement, le gouvernement Legault n'est plus du tout convaincu de la nécessité, de tenir une commission d'enquête sur l'hécatombe dans les CHSLD causée par la COVID-19. La tenue d'une telle commission est très, très, très incertaine. Petit récapitulatif, tu le rappelais toi-même, au plus fort de la pandémie ce printemps, François Legault, le premier ministre, disait on va trouver une façon là, d'aller au fond des choses, de savoir pourquoi ça a aussi mal été dans les centres, dans les CHSLD et aussi certaines résidences pour personnes âgées. Début juin, la cause paraissait entendue.
Oui.
Le gouvernement Legault penchait pour la tenue, non pas d'une commission d'enquête publique, là, mais d'une commission scientifique et technique. Pour donner une image aux gens, c'est le même type de commission qui a eu lieu lorsqu'il y a eu le déluge du Seigneur en 96, lorsqu'il y a eu la tempête du Verglas en 98. Donc, pas une commission d'enquête comme la commission Charbonneau sur l'industrie de la construction ou encore la commission Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables, mais une autre forme qui est qui demande des délais où les délais sont un peu plus serrés, là, au fond.
Oui.
Ça prend moins de temps. Ce qui est arrivé après le début juin, c'est que le bureau du coroner, souviens-toi, a dit « Je vais tenir une vaste enquête publique, moi-même, sur les décès, certains décès qui sont survenus dans les CHSLD, résidences pour personnes âgées. » Le protecteur du citoyen, juste avant que le gouvernement Legault, en juin, prenne une décision, dit « Je vais, moi aussi, enquêter sur ces affaires-là. » Donc, il y a quand même deux rapports qui s'en viennent, qu'on attend l'an prochain à ce sujet-là. Et là, le gouvernement se demande maintenant, bon, est-ce encore nécessaire de faire cette commission-là? Mais là, il se retrouve dans une position délicate, puisque comme c'était déjà passablement avancé, cette réflexion-là, autour de la tenue d'une commission scientifique et technique, il pourrait donner l'impression de vouloir éviter un autre exercice, disons, de reddition de compte ou d'examen du travail qu'il a fait. Mais tout de même, avec le protecteur du citoyen puis le bureau du coroner, c'est quand même assez costaud partant.
Bon, mais regardons juste l'horaire. Oui. Là. OK, mettons là, qu'on lance cette commission-là quelque part, je sais pas moi, à l'automne, avant les fêtes, mettons. Mettons au mois d'octobre, OK? Mais là, mettons qu'on leur donne un an pour arriver avec un rapport. Là, on arrive à l'autre année, en fait, à octobre 2021. Puis là, après ça, il y a toujours des retards. Donc, ça va aller quelque part au début de 2022, puis on est en élection cette année-là.
Oui, exactement. Mais ceci dit,
Tu veux-tu te faire un rapport qui va dire que tu as mal géré les CHSLD à un an de l'élection?
Oui, mais quand il y en a deux qui s'en viennent déjà, là.
Ouais.
Le professeur du citoyen n'est pas réputé pour être doux. Le bureau du coroner, ça risque d'arriver. Il risque d'y avoir des recommandations assez costaudes, là, si on se fie à l'expérience. Donc, au fond, ce qui restait un petit peu là dans les autres options, en fait, l'éclairage d'une commission scientifique et technique aurait permis de constater les problèmes d'organisation, de coordination, de les responsabilités diffuses. Hein, quand la responsabilité est partagée par plusieurs, dans le fond, il n'y a pas de responsabilité pour personne. Donc, difficile d'être imputable puis de trouver des responsables après coup. C'est ce que a montré un peu le rapport de la sous-ministre là, Dominique Savoie qu'on a vu cette semaine là, sur comment ça a mal été à Montréal, les raisons de ça. Il n'y a pas eu de grandes révélations, disons que ce qui s'est passé de mal, les problèmes qu'il y avait sur le terrain, on les connaissait un peu déjà. Donc, c'est comme si le gouvernement se disait, ben, est-ce que c'est vraiment absolument nécessaire de faire cet exercice-là? Par contre, il y a tout de même un petit peu de pression lorsque l'on se met à comparer avec d'autres gouvernements. Pas plus tard que mercredi, Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, a annoncé la mise sur pied d'une commission d'enquête indépendante pour faire la lumière sur la gestion de la crise dans les foyers de soins de longue durée en Ontario. C'est un juge qui est à la tête de cette commission-là. En plus, alors qu'il écartait des audiences publiques, il va y en avoir des audiences publiques. Et je te rappelle qu'il fait cette commission d'enquête-là, même si l'Ombudsman de la province a décidé, lui aussi, de faire son enquête là-dessus.
OK, alors il n'y aura pas de ça. Et puis, on entend moins parler aussi de la privatisation des CHSLD privés aussi. Et de l'étatisation des CHSLD privés.
On en entend moins, mais je te dirais qu'il faut l'examen qui est fait au gouvernement, c'est de déterminer est-ce que c'est la nature privée de ces centres-là qui est la cause. Je te dirais que c'est beaucoup plus profond que juste CHSLD privé. Il va falloir examiner tous les contrats qui sont accordés à, par exemple, des ressources intermédiaires, tout ça, pour héberger des gens. C'est souvent, on s'en sert souvent comme soupape pour le réseau public, puis on ne veille pas toujours à la qualité des services et des soins qui sont donnés là. Il y a eu plusieurs exemples dans les dernières années.
Monsieur Chouinard, merci beaucoup. À lundi.
À lundi. Salut, bonne fin de semaine.
Au revoir.